tout de suite le journal Thomas Cluzel, bonjour.
Bonjour Olivia, bonjour à toutes et à tous. Téhéran et Washington ont beau répéter ne pas chercher la guerre, les invectives belliqueuses et les incidents se multiplient. Ce matin, l'Iran a assuré n'avoir subi aucun dégât à la suite de cyberattaques que les États-Unis auraient lancées contre certains de ses systèmes de défense. De son côté, Washington s'apprêterait à dévoiler aujourd'hui de nouvelles sanctions majeures contre la République islamique.
La course à la succession de Theresa May serait-elle relancée ?
Et ce week-end, Boris Johnson, jusqu'ici grandissime favori, a été sommé par certains de ses pairs conservateurs de s'expliquer sur deux révélations. Une querelle conjugale tout d'abord, mais aussi et surtout ses liens supposés avec l'extrême droite en la personne de Steve Bannon.
En Turquie, l'opposition a infligé hier un sanglant camouflet au président Erdogan en remportant une nouvelle fois la mairie d'Istanbul.
Une victoire qui non seulement porte la voix des électeurs mécontents de la politique du chef de l'État, mais aura réussi par ailleurs à détruire son aura d'invincibilité. Invité de la rédaction dans une dizaine de minutes, Jean-François Bayard, professeur à l'Institut de Hautes Études Internationales et du Développement à Genève. Et puis en France, nous reviendrons notamment sur la prestation hier du dirigeant de la France Insoumise, Jean-Luc Mélenchon, qui a annoncé une réorganisation de son mouvement tout en réaffirmant plus encore son autorité de chef de file. Et puis à 12h55, Olivia, ce sera la grande table des idées.
Il a filmé la lutte des 277 salariés d'une usine d'équipement automobile menacée de fermeture, les GM&S de la Creuse. Et il en a fait un film présenté à la quinzaine des réalisateurs à Cannes et diffusé enfin ce soir sur Arte. On va tout péter. Le documentariste Lech Kowalski sera avec nous, accompagné de Jean-Marc Ducourtiou, qui est l'un des anciens salariés de cette entreprise.
Merci et à tout à l'heure. En alternant à l'envi et depuis plusieurs semaines déjà, les déclarations martiales et les appels au dialogue, les coups de menton comme les brusques accès de compassion, le président américain n'en est plus à une contradiction près dans le bras de fer qu'il a engagé avec l'Iran. Reste à savoir si cette impulsivité témoigne d'une forme de maladresse totale face à l'absence de réelles options qui s'offrent à lui, ou bien si elle relève d'une astucieuse mise en scène pour faire plier Téhéran. Toujours est-il qu'après avoir hier encore joué la carte de l'apaisement en assurant non seulement ne pas chercher la guerre, mais en se disant par ailleurs favorable à la conclusion d'un accord afin que l'économie iranienne puisse sortir du marasme, voilà que Donald Trump s'apprête à annoncer aujourd'hui de nouvelles mesures contre la République islamique d'Iran, laquelle a aussitôt menacé en retour les États-Unis de conséquences dévastatrices pour leurs intérêts dans la région en cas d'attaque contre son territoire. Alors quelle forme pourrait prendre ces nouvelles sanctions? Omar Waman a posé la question à Clément Terme, chercheur pour le Bureau Moyen-Orient de l'Institut d'études stratégiques à Londres.
Le problème des Américains, c'est de choisir des sanctions qui ne déclenchent pas une guerre, parce qu'on voit que les sanctions pétrolières qui ont été prises il y a quelques semaines, qui empêchent l'Iran d'exporter son pétrole, et le problème, c'est que ces tensions économiques peuvent conduire à des tensions militaires. Donc comme M. Trump ne veut pas une guerre parce qu'il est dans une campagne pour sa réélection, il a besoin de trouver un calibrage des choix de sanctions qui ne menacent pas la stabilité et la paix dans la région.
Quid de la position iranienne? Les Iraniens répondent, participent à cette escalade verbale.
Oui, en public, évidemment, l'Iran joue le jeu de la guerre des mots, de la guerre de la propagande avec les États-Unis, mais je pense que la République islamique est tout à fait disposée à entamer des négociations secrètes avec l'administration américaine, parce qu'ils n'ont pas d'autre choix en raison de l'impasse économique dans laquelle se trouve le pays. La guerre fait poser un risque non seulement pour l'effondrement économique de l'Iran, mais aussi pour une déstabilisation économique de toute la région.
Et quel est le sens de la visite du secrétaire d'État américain Mike Pompeo arrivé ce matin en Arabie Saoudite pour des consultations, notamment sur ces tensions entre les États-Unis et l'Iran?
Cette visite s'inscrit là dans le contexte de la guerre au Yémen aussi, donc même si le président Trump insiste toujours sur les ventes d'armes à l'Arabie Saoudite, il y a quand même un problème d'image et de crédibilité au niveau politique. Sur l'agenda vis-à-vis de l'Iran, je pense qu'il y a un accord sur la politique de sanctions entre l'Iran et l'Arabie Saoudite, mais je ne crois pas que l'Arabie Saoudite ait intérêt non plus à une escalade militaire qui affecterait toute la région.
Clément Terme, chercheur pour le Bureau Moyen-Orient de l'Institut d'études stratégiques à Londres, il répondait à Omar Waman. Et puis je précise encore qu'après que la presse américaine a révélé hier que les États-Unis avaient ordonné secrètement des cyberattaques contre des cibles iraniennes, ces attaques informatiques ont été aussitôt qualifiées de vaines par Téhéran, ou quand on a le sentiment que toutes ces surenchères permanentes ressemblent surtout au fond à une grande partie de poker menteur, où chacun bluffe à tour de rôle mais sans jamais être en mesure de parvenir à ses fins. Enfin, Clément Terme l'évoque évoquait également. Le secrétaire d'État Mike Pompeo est effectivement arrivé ce matin en Arabie Saoudite pour des consultations sur les tensions entre son pays et l'Iran. On le sait, les dirigeants saoudiens soutiennent aujourd'hui la fermeté de l'administration américaine à l'égard de Téhéran. Et comme pour mieux s'en assurer encore, hier, interviewé par la chaîne NBC, Donald Trump a rejeté d'un haussement d'épaule les conclusions de l'enquête approfondie sur la mort de Jamal Khashoggi. Le locataire de la Maison Blanche a laissé entendre que la vérité sur l'assassinat du chroniqueur du Washington Post comptait moins que les accords commerciaux avec l'Arabie Saoudite. Voilà plusieurs semaines déjà que les rues de Prague, mais aussi d'autres grandes villes du pays, bruissent d'un grondement, sourd. Le ras-le-bol des Tchèques face à leur Premier ministre, insensible aux critiques et qui a pris pour habitude de balayer d'un revers de main toute forme d'opposition. Hier encore, ils étaient pourtant plus de 250 000 à manifester dans la capitale pour réclamer la démission d'Andrej Babis, soupçonné de conflits d'intérêts et de détournement de subventions européennes. C'est tout simplement le plus grand rassemblement jamais observé en République tchèque depuis les manifestations qu'il y a 30 ans avaient abouti à la chute du régime communiste. Et même s'il apparaît probable que ce vaste mouvement de contestation puisse entraîner la chute du Premier ministre, cette démonstration de force n'en marque pas moins un tournant historique. Selon un sondage publié dès hier par l'hebdomadaire Mail on Sunday, l'affaire aurait déjà commencé à éroder la popularité de celui dont la course à la succession de Theresa May ressemblait jusque-là à une simple formalité. Après que le Guardian a révélé les détails sonores, hurlements et autres claquements de porte d'une dispute conjugale au domicile de Boris Johnson, hier c'était au tour de son confrère The Observer d'affirmer vidéo à l'appui que le chouchou aujourd'hui des pro-Brexit a été conseillé, contrairement à ses dénégations, par un certain Steve Bannon, l'ex-chef de campagne de Donald Trump, proche des milieux d'extrême droite. Antoine Gignoux, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes en direct de Londres. Alors cette ultime révélation, ça met un peu plus encore le trouble dans la course pour le leadership du parti Tory. Pour autant, la campagne est encore longue entre les deux prétendants à la succession de Theresa May, un mois avant de connaître le nom de celui qui deviendra automatiquement Premier ministre. Est-ce que ce genre de révélation, Antoine, est susceptible d'inverser la tendance dans l'électorat conservateur ?
En tout cas, c'est exactement ce qu'espèrent ses adversaires. Son principal rival, Jeremy Hunt, l'accuse Boris Johnson d'être un lâche ce matin et deux autres ministres lui demandent de s'excuser. Mais il reste pour l'instant muet à 6 reprises ce week-end. Les militants conservateurs réunis à Birmingham lui ont demandé pourquoi la police était venue de nuit à son domicile la semaine dernière. Il n'a pas évoqué l'altercation avec sa compagne. C'est cette façon d'éluder la question que ses opposants mettent en avant tout en insistant sur le caractère instable de l'ex-maire de Londres. L'une de ses anciennes collègues, autrefois journaliste, comme lui à Bruxelles, publie une tribune dans le Times et parle de changement d'humeur terrifiant en quelques secondes. Sa peau rougit, son regard devient noir, dit-elle. Impossible de lui confier un poste à responsabilité. Impossible, a fortiori, de lui confier les codes nucléaires. Des sources proches de la famille expliquent dans les tabloïds qu'il a été profondément perturbé par sa dernière rupture et rappellent que petit, il s'est cassé la main en tapant dans un mur après avoir perdu une partie de ping-pong. Conséquence immédiate de ce remue-ménage, les conservateurs écossais, déjà inquiets de voir se profiler un Brexit dur, parlent désormais de l'arrivée possible de Boris Johnson au pouvoir comme d'une catastrophe. Et chez les adhérents, sa cote de popularité est passée de 55% à 45% en 2 jours. Un sondage montre même qu'il a perdu sa place de favori.
Merci Antoine Gignoux en direct de Londres. Le pari était risqué pour Recep Tayyip Erdogan et l'enjeu non moins colossal pour le camp du parti au pouvoir. Un pari perdu en l'occurrence pour le président autocrate turc, puisqu'hier, presque 3 mois après l'élection municipale invalidée à Istanbul, refaire le match n'aura pas permis d'inverser le score. Bien au contraire, non seulement le candidat de l'opposition, Ekrem İmamoğlu, a de nouveau emporté le scrutin, mais il l'a fait avec une avance plus importante encore sur son adversaire, le poulain du président. Et c'est ainsi que dès hier soir, des milliers de Stambouliotes ont donc fêté le retour de la démocratie. C'est un reportage signé de notre envoyé spécial Eric Bigala.
Istanbul était en fête hier soir, notamment dans les quartiers où le vote pour le CHP, le parti d'İmamoğlu, est traditionnellement le plus fort, comme Beşiktaş par exemple. Certes, la victoire d'İmamoğlu était anticipée, tous les sondages d'opinion des dernières semaines le donnaient vainqueur, mais pas avec une telle marge. 750 000 voix d'avance sur son rival, l'ancien Premier ministre Binali Yildirim. Une telle défaite de l'AKP, le parti du président, c'est du jamais vu depuis 17 ans. Erkan, la quarantaine, 4 sub dans une entreprise de textile, a un peu de mal à y croire. Il a voté İmamoğlu, mais sans vraiment le connaître.
Je crois que c'est quelqu'un d'honnête, quelqu'un qui va réaliser ce qu'il a promis de faire. J'ai plutôt confiance.
À vrai dire, Erkan, comme beaucoup d'autres à Istanbul, n'a pas tant voté pour İmamoğlu que contre Erdogan.
Les gens ont voté contre Erdogan, ils ont voté contre Yildirim, et puis de manière générale contre ce pouvoir qui est là depuis 17 ans et qui se permet d'intervenir dans la vie des gens à tous les niveaux de leur existence.
C'est d'ailleurs probablement l'annulation du premier scrutin sur la municipalité d'Istanbul en mars dernier, et ce pour des raisons particulièrement spécieuses, ainsi que l'exigence de rejouer cette élection qui ont véritablement donné un coup de fouet à la campagne d'İmamoğlu. Manifestement, de nombreux électeurs qui avaient voté pour le candidat Binali Yildirim en mars se sont cette fois abstenus, choqués par l'injustice du procédé. En l'occurrence, la manip orchestrée par le pouvoir s'est clairement retournée contre lui.
Voilà un reportage à Istanbul signé Eric Biegala. Et pour continuer d'évoquer donc ce camouflet infligé au président Erdogan, invité aujourd'hui de la rédaction Jean-François Bayard, professeur à l'Institut de Hautes Études Internationales et du Développement à Genève. Bonjour monsieur.
Bonjour.
Alors, on a bien compris qu'en reportant la mairie de la ville la plus riche du pays, bastion qui plus est de l'AKP depuis près d'un quart de siècle, l'opposition a réussi à détruire l'aura d'invincibilité du chef de l'État. Pour autant, jusqu'où cette victoire va-t-elle porter? En clair, cela aura-t-elle un impact sur la vie politique turque?
Quatre mauvaises nouvelles pour Tayyip Erdogan, qui avait lui-même dit que qui contrôlait Istanbul contrôlait la Turquie. Il a perdu Istanbul. La première mauvaise nouvelle, c'est le symbole, puisque effectivement Erdogan est mis en échec par un mouvement démocratique qui a rallié certains de ses soutiens, comme vient de le dire Eric Biegala. Et de ce point de vue, il y a une certaine analogie avec les événements de Prague que vous évoquiez tout à l'heure. Deuxième mauvaise nouvelle, ce sont les archives. Il y a beaucoup d'archives et sans doute des archives compromettantes dans la ville d'Istanbul, puisque, et c'est la troisième mauvaise nouvelle, Istanbul a été la grande pompe à finances, comme dirait le roi Ubu, la grande pompe à finances d'Erdogan, notamment par le biais des partenariats publics-privés dans le réaménagement de la ville. Et puis la quatrième mauvaise nouvelle, c'est que l'opposition s'est montrée unie, alors que jusqu'à présent Erdogan avait électoralement prospéré sur sa désunion, et l'opposition, en particulier le CHP, a un nouveau leader qui est crédible, qui est un homme qui a fait une remarquable campagne électorale, très calme, avec ce slogan « Tout ira bien » qui s'est avéré être une prophétie.
Est-ce que on peut parler aujourd'hui de l'émergence d'une nouvelle génération de politiciens pour faire vaciller Erdogan, ou bien ce monsieur İmamoğlu est-il le seul ?
Il est difficile de dire, et il est même difficile de parler de l'avenir d'İmamoğlu, d'autant plus que pendant la campagne, Erdogan n'a pas dissimulé qu'il lui préparait quelques pots de banane judiciaires, en particulier une sombre histoire d'altercation avec un préfet à l'aéroport. Donc il est difficile de généraliser. En revanche, il y a eu un élément extrêmement important, c'est que dans une dernière manœuvre désespérée, Erdogan a mobilisé son frère ennemi, Abdullah Öcalan, le leader historique du PKK qui est en prison à vie au large d'Istanbul, pour lui demander de recommander à l'électorat kurde de rester neutre dans cette querelle électorale. Or, Demirtas, le leader de la façade légale du PKK, s'est lui très clairement prononcé en faveur d'İmamoğlu. Demirtas, d'une certaine manière, est représentatif également de cette nouvelle génération d'hommes politiques que vous évoquiez. Et incontestablement, l'électorat turc a suivi Demirtas, puisque la victoire d'İmamoğlu n'aurait pas été possible sans celle sans les votes du prolétariat, et notamment du prolétariat kurde. Et ça, c'est important, parce que İmamoğlu, ça n'est pas simplement le candidat des bobos, hein, des laïcs, de l'establishment kémaliste traditionnel. Il a su rallier un vote populaire.
Et puis on rappellera que le parti au pouvoir avait étonnamment essayé d'adoucir son discours justement sur les Kurdes.
Oui, mais ça c'est de la deuxième ou la troisième fois qu'Erdogan renverse la table sur la question kurde. Le paradoxe, c'est qu'il a effectivement beaucoup mieux que ses prédécesseurs reconnu le caractère politique de la question kurde, mais incontestablement, il a fait bien pire encore en matière de répression. Et on voit bien de ce fait que la victoire d'İmamoğlu n'est pas forcément l'hirondelle qui annonce le printemps. Aujourd'hui même, d'ailleurs, dans la sinistre prison de Silivri, s'est ouvert le procès procès d'Osman Kavala, une personnalité de la société civile, tout à fait pacifique, qui est un homme de réconciliation entre les Turcs, les Kurdes et les Arméniens, qui risque la prison à perpétuité, c'est-à-dire sous la forme d'une peine incompressible. Un discours assez largement digne des procès de Moscou, lorsque l'on lit l'acte d'accusation du procureur. Et la Turquie, c'est aussi cela. Donc le jeu, malheureusement, reste extrêmement ouvert et Erdogan n'a certainement pas dit son dernier mot.
Ça veut dire qu'il ne faut pas s'attendre à un remaniement ministériel, voire à des élections anticipées ?
Il est difficile de dire, parce qu'Erdogan est un joueur absolument remarquable, redoutable, c'est une véritable bête politique. Je ne pense pas que ce serait son intérêt que de précipiter cette élection, encore que son parti est en train de se fissurer. L'ancien président de la République, Gül, a pris ses distances depuis pas mal de temps, même s'il semble assez velléitaire. D'un autre côté, ça n'est pas non plus l'intérêt d'Erdogan que de laisser İmamoğlu s'installer à la mairie d'Istanbul et progressivement dans le rôle de leader naturel du principal parti d'opposition, le CHP.
Une dernière question, Jean-François Bayard. On connaît la situation économique difficile de la Turquie avec l'inflation, l'effondrement de la livre, le chômage élevé. Politiquement, et même si les résultats d'hier finalement prouvent que la démocratie fonctionne en Turquie, comment est-ce que vous décririez le régime turc ? Peut-on et doit-on parler de dictature ?
En tout cas, nous ne sommes plus dans la démocratie. L'asymétrie en termes de liberté de l'information et joue à plein. Le nombre de journalistes, mais également d'universitaires qui sont en prison est absolument faramineux, de même que les avocats. Il y a eu quand même des cas de fraude électorale et c'était la grande inquiétude que l'on pouvait avoir au sujet de ce scrutin. Fraude électorale lors des législatives, fraude électorale lors du référendum constitutionnel et de la présidentielle. Et ça n'est pas dans les traditions de la démocratie turque. Donc il y a des signes préoccupants et la Turquie n'est plus clairement dans un régime démocratique, même si elle n'est pas entièrement dans une dictature, comme vient de le prouver le résultat de l'élection municipale. Sur le plan économique, on retrouve ce côté Janus d'Erdogan, qui a beaucoup fait pour l'économie turque depuis son arrivée au pouvoir en 2002-2003, mais qui, d'un autre côté, a beaucoup fait également ces dernières semaines pour ruiner son crédit. Or, le talon d'Achille de la Turquie, c'est la balance des paiements. La Turquie est entièrement dépendante de ce qu'on appelle le hot money, de capitaux volatiles, et l'on a vu la livre turque se déprécier de manière très préoccupante, ce qui a certainement beaucoup joué dans le vote des Istanbouliotes hier.
Merci Jean-François Bayard, professeur, je le rappelle, à l'Institut de Hautes Études Internationales et du Développement à Genève, d'avoir répondu à notre invitation. La scène se passe à une centaine de kilomètres de l'île italienne de Lampedusa. On y voit des dizaines de migrants émerger de ce qui ressemble à un bateau de pêche pour embarquer ou plutôt s'entasser sur un simple canot. Et quelques minutes plus tard, le navire, manœuvré par des passeurs, repart direction la Libye, laissant ainsi pas moins de 80 réfugiés à leur sort en plein milieu de la mer Méditerranée. Louise Baudet, bonjour.
Bonjour Thomas.
Alors cette vidéo qui a beaucoup tourné sur les réseaux sociaux a été publiée par Frontex. Que souhaitait démontrer par là, ou peut-être même dénoncer, l'Agence européenne des gardes-côtes et frontières ?
Eh bien l'inhumanité des passeurs, tout simplement, et le caractère criminel de leur activité. Façon de braquer les projecteurs sur eux qui font commerce de la misère humaine, à l'heure où la fermeture des ports italiens et le blocage des navires de sauvetage des ONG font la une. Les images parle d'elle-même et ce qu'elle montre est loin d'être exceptionnel, affirme Eva Moncure, l'une des porte-paroles de Frontex.
Nous connaissons ce mode opératoire depuis plusieurs années, nous l'avions déjà observé, mais c'est la première fois que nous avons pu le filmer. On voit clairement que les migrants sont abandonnés sur un tout petit canot, très peu d'entre eux portent des gilets de sauvetage. Ils partent vers le nord et le bateau de pêche repart vers le sud. Là, on voit très clairement comment ce réseau criminel fonctionne.
Alors les 81 migrants venaient du Bangladesh et de Syrie, ils ont été interceptés et débarqués à Lampedusa. Quant au bateau de pêche qui bat pavillon libyen, il a été arraisonné. Ses membres d'équipage, 6 Égyptiens et 2 Tunisiens, ont été interpellés. Les images tournées par Frontex sont frappantes, mais attention, précise Eva Moncure, cette route qui passe par la Méditerranée centrale n'est plus la voie privilégiée par les passeurs.
Par rapport à l'an dernier, les arrivées par cette route ont chuté de 85%. Aujourd'hui, les principales voies d'accès vers l'Europe se font entre la Turquie et les îles grecques et entre le Maroc et l'Espagne. Et on y observe beaucoup plus d'arrivées qu'en Méditerranée centrale.
Sachant que les passages par voie maritime ont considérablement diminué, plus d'un million en 2015, 116 000 l'an dernier. En revanche, le taux de mortalité augmente fortement, 6 morts par jour l'an dernier. La Méditerranée est devenue la route maritime la plus meurtrière au monde.
Merci Louise Baudet. Alors l'immense crise migratoire à laquelle se greffent aujourd'hui les conflits au Sahel, mais aussi en Libye, plus généralement d'ailleurs toutes les instabilités nées des printemps arabes, prouve combien les enjeux aujourd'hui sont multiples autour des rives de la Méditerranée. D'où cette idée lancée l'an dernier par le président français d'organiser un sommet des deux rives, faisant appel tout à la fois à la diplomatie régionale, mais également à la société civile. L'objectif, coopérer via des projets concrets autour par exemple de l'éducation, de l'environnement, du numérique comme autant de biais pour solutionner des crises multiples. Alors cette réunion internationale est donc organisée depuis hier soir à Marseille. Marseille où nous vous retrouvons, Anne Fauquemberg, bonjour.
Bonjour.
Ce forum de la Méditerranée doit se clôturer incessamment avec une prise de parole attendue d'Emmanuel Macron. Le chef de l'État a-t-il commencé à parler ?
Oui, alors le chef de l'État est arrivé au palais du Pharo à Marseille. Il est sur la scène de cette institution locale. Il a été accueilli par Wydad Bouchamaoui, prix Nobel de la paix 2015, qui a coordonné tous les travaux de la société civile depuis 6 mois. Plus de 272 initiatives et projets ont émergé et elle a demandé au chef de l'État de la volonté pour les mettre en place, notamment une école de la deuxième chance dont elle a parlé et puis une initiative pour dépolluer la Méditerranée, la plus grande poubelle du monde, a-t-elle précisé. On va voir plus de détails dans les minutes qui viennent sur ces projets. La chef de file marocaine de la société civile, Assia Ben Salah Alaoui, s'est également exprimée. Elle a demandé un autre narratif de la Méditerranée, un narratif plus positif. Et cette vision positive qui a pu être critiquée par les experts au sujet de ce sommet des deux rives qui n'aborde pas la question dramatique de l'immigration, eh bien la chef de file française de la société civile, Patricia Ricard, s'en est défendue ce matin. C'est par ce côté qu'on arrivera à réduire les drames en Méditerranée, en réparant les ruptures sociales et en réparant les ruptures environnementales.
Alors précisons, Anne, que jusqu'à la dernière minute, on ne savait pas en réalité si Emmanuel Macron allait être présent ou non à ce sommet. Il est finalement arrivé dès hier soir dans la cité phocéenne pour un dîner privé en compagnie d'acteurs locaux. Faut-il en déduire, Anne, que ce déplacement du chef de l'État pourrait répondre à un double objectif ?
Eh bien oui, puisque Marseille, deuxième ville de France, eh bien à Marseille, le jeu est très ouvert pour les municipales. Le successeur de l'actuel maire, Jean-Claude Gaudin, n'est pas désigné. Alors le sénateur LR Bruno Gilles est candidat déclaré, tandis que la présidente de la métropole et du département, Martine Vassal, également LR, cajole les marcheurs pour aller vers une liste d'union. Les marcheurs, dont certains députés du CRU comme Saïd Hamada, sont également intéressés pour être candidats. Et puis on parle aussi d'un universitaire proche du couple Macron-Philippe Agresti pour prendre la tête d'une liste En Marche LR. Il y a 10 jours, Brigitte Macron était venue dans la cité phocéenne. Elle avait rencontré et Jean-Claude Gaudin et Philippe Agresti. Aujourd'hui, Emmanuel Macron occupe le terrain. Il s'est rendu dans les quartiers nord ce matin avec le préfet des Bouches-du-Rhône pour visiter un centre Pôle emploi. Un chef de l'État très très actif et qui le sera aussi ce midi parce qu'il y a un déjeuner après le discours du chef de l'État qu'on attend donc dans quelques minutes. Déjeuner où il y aura aussi des élus locaux dont Jean-Claude Gaudin, le maire de la ville. Et puis Jean-Luc Mélenchon est aussi arrivé au palais du Pharo. Jean-Luc Mélenchon qui n'est pas candidat à la mairie de Marseille.
Merci Anne Fauquemberg en direct de Marseille ainsi qu'à Laurent Macchietti pour les moyens techniques. Nous l'évoquions à l'instant justement, Jean-Luc Mélenchon, tribun incontesté, le dirigeant de la France insoumise fragilisé par son revers aux élections européennes, se livrait hier à un exercice délicat, démontré qu'il n'est pas seulement ce tribun parfois irascible voire autoritaire mais aussi un leader capable de rassurer et de motiver ses troupes à l'occasion d'une assemblée représentative pour tirer les leçons de l'échec des européennes. Le dirigeant de la France insoumise a certes consenti quelques autocritiques, accepter de déléguer quelques tâches, mais pour l'essentiel, il s'est refusé à toute auto-flagellation. Rosalie Lafarge, bonjour.
Bonjour.
En fin de compte, on a le sentiment que cette assemblée était surtout à destinée à rappeler qui était le patron, car visiblement, Rosalie et Jean-Luc Mélenchon entend bien le rester.
Mais oui, le chef de la France insoumise, c'est lui, et il n'a pas manqué de le rappeler.
Mon rôle, il est consubstantiel au mouvement. Pourquoi ? Parce que c'est moi qui étais le candidat. Pardon, je m'excuse. Hein.
Le tribun réaffirme son autorité, sa place de patron des insoumis, mais un patron qui accepte quelques changements, au moins dans la forme.
Une page est en train de se tourner aujourd'hui et vous le voyez à ce fait, entre autres, que je conclus alors qu'autrefois, j'ouvrais.
Jean-Luc Mélenchon n'ouvrira plus toutes les réunions du mouvement. Il déléguera parfois à Adrien Quatennens, par exemple, devenu ce week-end numéro 2 de la France Insoumise. Sa collègue à l'Assemblée, Mathilde Panot, coordonnera tous les parlementaires de la formation. Quelques gages pour tenter d'apaiser les tensions, mais immédiatement suivi d'un petit rappel à l'ordre.
Une force est là, c'est un point d'appui et rien... En tout cas, aucune simagrée, aucune autoflagellation de convenance, tant à la mode dans la vieille gauche officielle mondaine, ne viendra jamais abattre. Bon, ben voilà, l'essentiel est dit, non ?
L'essentiel ne plaît pas à tout le monde. La France Insoumise enregistre ce matin un nouveau départ, celui de Manon Le Breton, responsable de l'école de formation LFI. Elle dénonce la virulence de Jean-Luc Mélenchon à l'égard de ceux qui, comme elle, ont osé dire ou penser qu'à la France Insoumise, on n'a pas toujours le droit de refuser de se soumettre.
Merci Rosalie Lafarge. On termine avec un mot de météo à l'exception de la Bretagne et de la Normandie jusqu'au Pas-de-Calais où les averses resteront fréquentes partout ailleurs. Le ciel s'annonce ensoleillé cet après-midi avec des températures en très nette hausse qui varieront entre 19 et 37 degrés. C'est la fin de ce journal. Il était réalisé par François-Charles Domergue. À 18h, vous avez rendez-vous avec Aurélie Kiefer pour le prochain journal de la rédaction.